production quand vous voulez faire de l'exportation? Comment voulez-vous être compétitif? C'est pas possible.
Donc je ne comprends pas pourquoi on est capable de rénover Notre-Dame en 5 ans et qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes processus pour construire des usines solaires ou éoliennes en France. Il y a un truc qui m'épate.
Les patrons ont perdu le sens de l'humour, Denis Le Bosset. Ils envoient des messages quand même très très forts. Hein. Est-ce qu'on va assister à des délocalisations massives parce que la France ne serait plus compétitive?
J'espère pas. Mais c'était évoqué tout à l'heure, il y a vraiment un problème de formation. Aujourd'hui, il y a quand même 250 000 postes qui ne sont pas pourvus.
Oui.
Dans le bâtiment.
Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on continue à avoir du mal à recruter.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le discours, et je partage l'avis des intervenants, c'est pas seulement dans les grandes entreprises, mais les petites entreprises rencontrent des difficultés pour recruter. Alors, c'est certainement pas des domaines attractifs, etc., mais il y a quand même une difficulté pour ces entreprises de recruter efficacement et de pourvoir, parce que ce sont des gens qui ont des carnets de commandes, qu'ils doivent fournir, qui ont en général des problèmes de trésorerie. Donc les petites entreprises sont quand même dans une situation quelquefois assez difficile.
Ça veut dire que là, il y a tout un débat autour de l'immigration, de durcir les conditions d'octroi à un certain nombre de personnes qui travaillent en France. C'est vrai qu'on entend le patronat, notamment la restauration ou encore le bâtiment, qui dit « mais si on durcit les règles, Saïd Amouche, on n'a plus de travailleurs », ce qui paraît assez incroyable au moment où on voit le chômage remonter.
Mais il faut sortir de cette hypocrisie, chacun joue sa partition pour ses propres intérêts. Là, il faut arrêter. Quand on a 20% de chômage dans les quartiers populaires et qu'on a des gens qui sont fraîchement diplômés, là, je donne un exemple, la Seine-Saint-Denis produit 15 000 jeunes diplômés chaque année. Et ces gens vont mettre 10 mois, 12 mois, 24 mois à trouver un job. Et souvent, c'est des jobs déqualifiés. Donc, c'est des gens qui sont, encore une fois, inscrits dans des situations de réussite parce qu'on n'est pas capable de faire cet appareillement. Parce qu'on a des préjugés que de la part des recruteurs sur les jeunes, mais les jeunes par rapport aux entreprises, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, on peut avoir des réflexions métaphysiques. Évidemment, il y a des problèmes d'investissement, mais quand on est en période de changement climatique et qu'on investit dans la transition écologique, il y a des budgets qui permettent à un moment donné de recruter. Et quand on recrute, il faut aussi pousser cette jeunesse qui a moins de chances que les autres à aller sur les métiers en fait, de la transition écologique, de transition énergétique, transition numérique. On a des opportunités. Vous avez rappelé tout à l'heure Thierry Marx, il n'arrête pas de dire qu'il ne peut plus aujourd'hui développer parce qu'il n'a pas les compétences. Et les gens sont disponibles. Donc il faut à un moment donné travailler en fait les fondamentaux, c'est-à-dire comment on rapproche l'offre de la demande. Point à la ligne.
Denis Le Bosset, est-ce que finalement aujourd'hui les patrons sont pris entre deux feux? C'est soit la faillite, soit l'exil.
Alors, la faillite ou l'exil, je pense que l'exil, je n'y crois pas, parce que vous pouvez avoir des multinationales qui vont délocaliser.
Quand vous êtes Michelin, vous pouvez peut-être le faire, mais
voilà.
Quand vous êtes plombier zingueur,
exactement. Et 99% des entreprises françaises sont aujourd'hui dans une situation relativement complexe. Parce que le tissu économique français. Alors, c'est vrai que Tesla va préférer aller construire ses nouvelles voitures en Allemagne qu'en France. Et c'est vrai que le président d'EDF et le président de Total constatent qu'il faut 7 ans pour construire une usine en France, alors qu'il faut un an en Allemagne. C'est leur constat. Mais les entreprises françaises, aujourd'hui, bon nombre d'entreprises françaises, notamment les TPE, PME, sont sorties d'une crise qui était quand même très très forte. Elles rencontrent des difficultés, elles sont sous-capitalisées, elles manquent de fonds propres, elles ont difficilement accès aux concours bancaires, elles ont des grandes difficultés à recruter et à maintenir leur marché. Donc on est dans une situation où effectivement, les nombres de dépôts de bilan, on l'a évoqué tout à l'heure, vont continuer à augmenter. Et effectivement, aujourd'hui, on doit trouver des solutions pour accompagner ces entreprises.
Mais Eric, hier, pour qu'on comprenne bien, vous l'économiste, l'homme sage, est-ce que c'est effectivement, objectivement, plus difficile et plus anti-business aujourd'hui la France que d'autres pays, que les États-Unis, que l'Allemagne ou que sais-je?
Alors, disons qu'il y a eu un effort pour revenir dans les canaux traditionnels depuis 5 ans. C'est-à-dire que le gouvernement a baissé depuis 2017 la pression sur les entreprises. Il y a eu des baisses d'impôts, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu des baisses d'impôts sans baisser la dépense publique. Et donc, on a fait une politique de l'offre, mais non financée, en espérant que cette politique de l'offre allait porter ses fruits, et ce, d'autant plus que ça permettrait de financer les déficits. Grâce à cette politique de l'offre, beaucoup plus de croissance, avec ces croissances, ça allait permettre de financer les baisses d'impôts depuis 2017. Bon, donc effectivement, là, il y a un petit retour de bâton, parce que on s'est aperçu que malgré 5-6 ans de politique de l'offre, les performances économiques de la France n'ont pas été significativement au-dessus de nos partenaires. Donc, on est dans la moyenne, on était dans la moyenne, et on est resté dans la moyenne en termes de performance économique, et donc cette politique n'a pas permis de s'autofinancer. Et donc là, aujourd'hui, le retour de bâton, c'est on demande à tout le monde de faire des efforts pour revenir à des finances publiques équilibrées, et c'est quand même 110 milliards que l'on cherche, c'est pas et de façon structurelle. C'est 110 milliards, il faut se les répartir, et bien entendu,
d'ici 2029.
D'ici 2029, voilà. Vous avez raison, mais structurel, hein, c'est-à-dire ceux qui pensent que ça va être juste une hausse d'impôts et on reviendra ensuite à la normale, non, il faut que ça soit des efforts structurels. Et donc, il est certain que, il y a un petit retour sur les aides aux entreprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se lance, nous, dans la réduction de ces déficits, alors qu'aux États-Unis, ils font l'inverse. Ils continuent à faire énormément d'aides aux entreprises. Et donc, c'est certain que, puisqu'on est dans un monde ouvert, il y a d'un côté un pays qui va durcir ses conditions, d'accord, c'est la France, et un pays qui ne va pas les durcir. Mais le point central, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les déficits.
Alors, Eric Ayer, vous me permettez d'aborder la dernière partie de cette émission, je voulais évoquer l'éléphant dans la pièce, parce qu'il y a Donald Trump, effectivement, il y a Elon Musk, et on s'aperçoit, Saïd Amouche, que beaucoup de gens en France regardent l'Amérique de Trump comme une espèce d'Eldorado pour l'entrepreneuriat. Est-ce que vous vous dites, ça va faire des dégâts chez nous, ça, cette exemplarité ou cette espèce de symbolique volontariste de Trump ?
Moi, ce que je ressens, c'est effectivement, il y a un élan, une direction qui est donnée. Finalement, on donne tout au plus fort et on oublie les plus fragiles. Donc, effectivement, ça, on peut avoir des résultats immédiats dans ce type de logique. Mais si derrière, on ne s'occupe pas des plus fragiles, on va aggraver en fait les problématiques sociales, on va aggraver la situation des plus vulnérables, on va aggraver en fait les difficultés. On n'est pas très loin des gilets jaunes, hein, quand même. Hein. Il y a encore quelques années, on avait un mouvement social qui a duré, qui était lourd. Et donc, je pense que le chacun pour soi ne suffira pas.
Denis Le Bossé, vous vous sentez dans les entreprises que vous suivez avec le cabinet Arc, vous sentez qu'il y a cette espèce de fascination pour l'Amérique de Trump chez les patrons ?
Peut-être une crainte, mais peut-être pas une fascination. On a aussi le rapport de Mario Draghi, qui inspire quand même certains pays d'Europe. Mais aujourd'hui, on ne sent pas d'inspiration encore de nos gouvernants qui sont plutôt dans la dissolution et la censure. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour créer de l'emploi, elle a besoin de confiance. De confiance dans une stabilité politique. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Et on a vu que la hausse du chômage était clairement liée à ce
manque de confiance, de visibilité, de stabilité.
Ouais. Et donc, le rapport de Mario Draghi, qui va vers un investissement accru, qui va vers un développement, ce serait bien que nos politiques...
La bonne dette pour l'investissement, c'est ça l'idée.
Et voilà. Et ça serait intéressant que nos politiques s'y consacrent plutôt que de chercher à savoir si on va censurer, si on va faire un budget ou pas un budget, si on va continuer à s'amuser.
Oui, en réalité, la préoccupation des chefs d'entreprise ne correspond pas du tout à la préoccupation de la classe politique. En ce moment.
Pas du tout. Ils ne seront absolument pas alignés. Et c'est vraiment, je pense, un des sujets... On a eu jusqu'en 2024, jusqu'à mi-2024, une stabilité qui a été complètement dévoyée.
Qui a explosé en vol.
Explosé.
On va terminer avec vous, Thierry Lepan, parce qu'une période comme celle-là, on voit bien qu'on est aux prémices d'un retournement, notamment sur le marché du travail. C'est une période où on va connaître des combats sociaux ou bien au contraire une période de recul social parce que ceux qui ont peur de perdre leur travail ne combattent plus.
Oh, je crois qu'il n'y a rien de mécanique, hein. À la fois heureusement et malheureusement. Moi, je crois que dans la période, ce qui est assez choquant, me semble-t-il, c'est que le discours du patronat est exactement le même que le discours du gouvernement. L'obsession, c'est la baisse du coût du travail, alors qu'on sait que dans notre civilisation, dans notre pays en tout cas, c'est le travail qui paye le hors-travail. et on s'occupe beaucoup de savoir ce qu'on peut diminuer comme dépenses dans les services publics, et on ne parle pas de recettes, alors qu'un budget, c'est à la fois les recettes pour correspondre à des dépenses. Ce que je remarque également, c'est qu'il n'y a rien dans le débat politique sur le rendement du capital, et pourtant ça reste une vraie question pour notre pays. Il n'y a rien sur la question de la distribution aux actionnaires, y compris dans les entreprises en difficulté. On a vu les grandes entreprises en, entre guillemets, difficulté financière, qui s'endettaient pour pouvoir rémunérer des actionnaires, alors que leur bilan n'est même pas positif. Et s'il y a un manque de fonds propres, c'est aussi et un manque d'investissement, c'est aussi parce que on l'a vu encore ces dernières semaines, il y a une distribution aux actionnaires qui n'a jamais été aussi aussi forte. Donc c'est malsain et faux de dire que à la fois les entreprises souffrent de leur côté et que de l'autre côté il n'y a pas d'investissement public à la hauteur des besoins à la fois du pays et de l'entreprise.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'ailleurs. Éric Heyer, donc économiste à l'OFCE, Denis Le Bossé, président du cabinet Arc, Saïd Amouche, fondateur de Mosaïque RH, et Thierry Lepan, ancien numéro 1 de la CGT. La réalisation était signée Jonathan Griveaux, les archives étaient sélectionnées par Yannick Morino. Merci pour votre écoute, vous pouvez commenter ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles ou sur l'application RTL et le site rtl.fr.